À la demande de Duncan, la bibliothèque lui avait fourni des renseignements sur l'ancienne Geddy Prime, sur les Harkonnen et leur chute, sur les différentes campagnes commandées par Miles Tegg. Aucune des grandes batailles que Tegg avait menées n'avait été très sanglante. Plusieurs commentateurs faisaient mention de son sens aigu de la diplomatie. De recherche en recherche, Duncan en était venu à s'intéresser à la période de l'Empereur Dieu et à la pacification de son peuple. Durant des semaines entières, il était resté sur cette période. Il avait découvert de vieilles cartes qu'il projetait sur le mur de focalisation. Les commentaires en surimpression lui avaient appris que cette citadelle où il se trouvait était un ancien poste de commandement des Truitesses, abandonné au cours de la Grande Dispersion. Les Truitesses. Duncan aurait tellement souhaité vivre à cette époque. Peut-être comme l'un des rares conseillers mâles de cette armée de femmes exclusivement vouée au culte et à la protection du grand empereur Dieu. Ah, vivre sur Rakis en ce temps-là. Tegg l'avait surpris en se montrant loquace sur l'empereur Dieu, qu'il désignait toujours sous le nom de tyran. Une section réservée de la bibliothèque avait été ouverte à Duncan et les informations sur Rakis avaient afflué.
Verrai-je un jour Rakis ? Avait-il demandé à Geassa.
On est en train de te préparer à y vivre.
Cette réponse l'avait stupéfié. Tout ce qu'on lui avait appris sur cette planète lointaine revêtait un aspect nouveau.
Pourquoi irais-je vivre là-bas?
Je ne peux pas te répondre. Mu par un intérêt nouveau, il s'était lancé dans des recherches personnelles sur cette mystérieuse planète et son misérable culte de Shai-Hulud, le dieu fractionné. Des vers. C'était tout ce qu'il restait de l'empereur Dieu. Cette idée remplissait Duncan de craintes respectueuses. Peut-être qu'il y avait là de quoi nourrir un culte. Cela faisait assurément vibrer en lui une corde sensible. Qu'est-ce qui avait pu pousser un être humain à accepter une si terrible métamorphose? Duncan n'ignorait pas ce que les gardes et les autres personnes de la citadelle pensaient de Rakis et de ses prêtres. Ce n'était que rire et raillerie à leur propos. Tegg avait dit «
Nous n'apprendrons probablement jamais toute la vérité là-dessus, mon garçon. Mais crois-moi, ce n'est pas une religion pour un soldat. »
Shuangyu, de son côté, avait renchéri
« Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le tyran. Mais vous ne devez pas croire à sa religion. Ce serait indigne de vous. »
Dès qu'il avait un moment libre, Duncan se penchait avidement sur les documents que lui offrait la bibliothèque. Le livre sacré du dieu fractionné, la Bible de la garde, la Bible catholique d'Orange et même les apocryphes. Il apprit ainsi le rôle historique du comité de la foi et de la perle qui est le soleil de la compréhension. L'idée même des vers le fascinait, la taille qu'ils atteignaient. Les plus grands dépassaient la citadelle en longueur. Autrefois, avant l'époque du tyran, il y avait des hommes qui montaient dessus. Mais aujourd'hui, les prêtres de Rakis s'interdisaient formellement cette pratique. Il avait été captivé par les récits des équipes d'archéologues qui avaient découvert sur Rakis le non-espace primitif aménagé par le tyran. Ce lieu portait le nom de Dar es-Balat. Les rapports originaux de l'archéologue Adi Benotto portaient la mention « retiré par ordre du clergé de Rakis ». Par contre, les écrits du Bene Gesserit sur la question étaient nombreux et accessibles. Ce que Benotto avait mis au jour semblait proprement fabuleux.
Une miette de conscience de l'empereur Dieu dans chaque vers?
S'était étonné Duncan devant Geassa.
C'est ce que disent les textes. Mais même si c'est vrai, les vers ne le savent pas.
Ils n'en ont pas conscience. Le tyran lui-même n'a-t-il pas dit qu'il entrait dans un rêve sans fin? Chaque séance d'étude était l'occasion d'un sermon où les vues du Bene Gesserit sur la religion lui étaient expliquées. Un jour, il tomba sur des textes portant pour titre « Les neuf filles de Siona » et « Les mille fils de Duncan Idaho ». Il demanda à Geassa
« Je m'appelle aussi Duncan Idaho, qu'est-ce que ça signifie ?»
Geassa se tenait toujours comme si elle était écrasée par l'ombre de sa déchéance, la tête courbée en avant, les yeux rivés au sol. Duncan était venu la trouver au début de la soirée, dans le long corridor qui menait à la salle d'entraînement. Elle avait pâli devant sa question. Comme elle ne lui répondait pas, il avait insisté.
« Je suis peut-être le descendant de cet autre Duncan Idaho ?»
Il faut demander cela à Shfangyu,
avait prononcé Jehasa comme si chaque mot lui causait une douleur. C'était une réponse qu'il entendait souvent et qui le rendait furieux. Cela signifiait qu'on allait lui dire n'importe quoi pour le faire taire et qu'il n'apprendrait pas grand-chose. Cependant, Shfangyu avait été plus loquace qu'il ne s'y attendait.
« Vous portez en vous le véritable sang de Duncan Idaho. »«
Qui sont mes parents ?»«
Ils sont morts depuis longtemps. »«
De quelle manière ?»«
Je l'ignore. Nous vous avons recueillis orphelins. » »«
Dans ce cas, pourquoi y a-t-il des gens qui veulent me faire du mal ?»«
Ils redoutent ce que vous pourriez accomplir. »«
Que pourrais-je accomplir ?»«
Étudiez bien vos leçons et tout deviendra clair en son temps. » »«
Taisez-vous et étudiez. »
Encore une réponse qu'il avait l'habitude d'entendre. Il avait obéi parce qu'il savait voir quand une porte était définitivement fermée. Cependant, son esprit fureteur avait découvert d'autres informations sur la grande famine, la dispersion, les non-espaces et les non-vaisseaux que même les prescients les plus puissants de cet univers étaient incapables de détecter. À cette occasion, il avait lu aussi que les descendants de Duncan Idaho et de Siona, ces personnages illustres qui avaient servi l'empereur Dieu, étaient exclus des visions des prophètes et des prescients. Même un navigateur de la guilde en pleine transe de mélange ne pouvait les voir. Siona, d'après ses documents, était une pure Atréide. Et Duncan Idaho était un Gola. Un Gola. De nouvelles recherches sur ce mot curieux ne lui avaient fourni qu'une définition sommaire. Gola, être humain créé dans les cuves axlotol du Tleilax à partir de cellules prélevées sur un cadavre. Les cuves axlotol. Machine Tleilaxu servant à reproduire un être humain à partir de cellules prélevées sur un cadavre. Description d'un Gola, avait-il demandé. Reproduction humaine dépourvue de la mémoire de l'original, voire cuve axlotol. Duncan avait appris à lire entre les lignes et à interpréter les silences des informations que lui livrait la citadelle. Ce fut une brusque révélation. Il savait. Il n'avait que 10 ans et il savait déjà. Je suis un Gola. C'était le soir à la bibliothèque. Toutes les machines ésotériques autour de lui confondues en un même substrat sensoriel. Et un garçon de 10 ans était silencieusement assis devant un écran, aux prises avec cette vérité qu'il venait de découvrir. Je suis un Gola. Il n'avait aucun souvenir de ces cuves axlotol où ses cellules avaient grandi. La première chose qu'il se rappelait était le visage de Jehasa quand elle l'avait soulevé de son berceau et que ses yeux d'adulte avaient manifesté un intérêt alerte, vite estompé sous un prudent battement de paupières. C'était comme si toutes les informations parcimonieusement livrées jusque-là par les documents et les personnes qui peuplaient la citadelle venaient d'adopter enfin un contour commun. Celui du Gola Duncan Idaho.
Renseignez-moi sur le Bene Tleilax, demanda-t-il à l'écran.
Leur peuple se divise en maîtres et en danseurs-visages. Les danseurs-visages sont des hybrides, stériles et entièrement soumis à la volonté des maîtres.
Pourquoi m'ont-ils fait une chose pareille?
Les machines d'information de la bibliothèque avaient soudain pris un aspect inquiétant et hostile. Il avait peur. Non plus que ces questions se heurtent à un mur de silence, mais qu'elles reçoivent des réponses trop précises.
Pourquoi ai-je une telle importance pour Shfangyu et les autres?
Il avait le sentiment qu'on lui avait causé du tort.
Même Teg et Patrine.
Était-il normal de se servir des cellules d'un être humain pour fabriquer un Gola? Il posa sa question suivante après un long moment d'hésitation.
Un Gola peut-il se rappeler qui il était?
La chose est possible.
Que faut-il faire?
L'identité psychique entre un Gola et son original préétablit certains processus qui peuvent être déclenchés par un choc traumatique.
Ce n'était pas une réponse, ça. Mais comment faire?
À ce moment-là, Shfangyu était arrivé à l'improviste à la bibliothèque. Il avait dû utiliser un mot-clé qui avait déclenché un dispositif d'alarme.
Tout vous sera expliqué en temps voulu, avait-elle dit simplement.
Comme elle le prenait de haut avec lui. Ce manque de sincérité, cette injustice l'indignait. Il y avait quelque chose en lui qui lui disait que son psychisme inachevé
contenait plus de sagesse humaine que d'autres qui se présumaient supérieurs. Sa haine de Shuangyu atteignait des dimensions nouvelles. La vieille révérende mère personnifiait à présent tout ce qui le faisait souffrir en éludant ses questions. Son imagination était maintenant exaltée. Il se faisait fort de retrouver ses souvenirs originaux. Il en était fermement convaincu. Il saurait qui étaient ses parents, les membres de sa famille, ses amis et aussi ses ennemis.
« M'avez-vous produit à cause de mes ennemis ?»
demanda-t-il à Shuangyu.
« Vous avez déjà appris le silence, » lui répondit la révérende mère. « Appuyez-vous sur ce que vous avez appris. »
« Très bien, maudit Shuangyu. Puisqu'il en est ainsi, je te combattrai par le silence. J'apprendrai ce dont j'ai besoin et tu ne sauras jamais plus ce que je pense réellement. »
« J'ai l'impression, » avait dit Shuangyu avant de se retirer, « que nous sommes en train d'élever un stoïque. »
Cette façon qu'elle avait de se croire toujours supérieure. Il n'admettait pas cela. Il lutterait contre tout le monde par son silence et par sa vigilance. Il sortit en courant de la bibliothèque et alla s'enfermer dans sa chambre. Au cours des mois suivants, plusieurs choses lui confirmèrent qu'il était un gola. Même un enfant était capable de voir que ce qui l'entourait n'était pas ordinaire. Parfois, Duncan apercevait d'autres enfants au-delà des murs, sur la route périphérique. Ils couraient et riaient de manière insouciante. Les documents de la bibliothèque décrivaient de nombreux enfants. Aucun n'était comme lui entouré d'adultes qui lui imposaient un entraînement difficile et rigoureux. Aucun n'était soumis à une révérende mère qui ordonnait les moindres détails de sa vie quotidienne. Sa découverte précipita un autre changement dans la vie de Duncan. Luran Jeassa fut éloignée de lui et il ne la revit plus jamais. Elle n'était pas censée me laisser découvrir la vérité sur les Golas. La vérité était un peu plus complexe, comme Shuangyu l'expliquait à Lucille sur la terrasse le jour où elle était arrivée.
« Nous savions que cet instant arriverait inévitablement, qu'il apprendrait ce qu'est un gola et qu'il poserait les questions évidentes. »
« Il était grand temps, de toute manière, qu'une révérende mère prenne son éducation quotidienne en charge. Jeassa n'était peut-être pas la personne indiquée. »«
Vous mettez mon jugement en doute ?»
fit sèchement Shuangyu.
« Votre jugement est-il si infaillible qu'il soit interdit de le mettre en doute ?»
Prononcée par la douce voix de contralto de Lucille, cette réplique avait la valeur d'un soufflet. Shuangyu demeura silencieuse près d'une minute entière avant de murmurer
« Jeassa considérait le gola comme un enfant attachant. Elle a versé des larmes en disant qu'il allait lui manquer. »
« N'avait-elle pas été mise en garde ?»«
Jeassa n'a jamais eu notre formation. »
« Vous l'avez donc remplacée par Tamalan. Je ne la connais pas, mais je suppose qu'elle est très vieille. »
« En effet. »
« Quelle a été la réaction du gola quand il n'a plus vu Jeassa ?»«
Il a demandé où elle était allée. Nous ne lui avons pas répondu. »
« Comment les choses se sont-elles passées avec Tamalan ?»«
Le troisième jour, il lui a dit très calmement, « Je vous déteste. C'est bien ce que je suis censé faire. »«
Si vite ?»«
En ce moment même, il vous observe et il pense, « Je hais Shuangyu. » Devrais-je haïr aussi cette nouvelle ? Mais il se dit en même temps que vous n'êtes pas comme les autres vieilles sorcières qu'il connaît. Vous êtes jeune. Il sait que ce doit être important.